Merci. Mesdames et messieurs, chers collègues, chers amis, je suis heureux de me trouver là, en particulier parce que je crois à la stimulation, à la fois intellectuelle, historique et spirituelle d'un dialogue, entre judaïsme et christianisme. Sur ce point-là, avant d'entrer en matière, au fond, je ne partage pas tout à fait ce qui vient d'être dit, et que je résume, le judaïsme se comprend par lui-même, le christianisme a besoin du judaïsme pour se comprendre. Je ne crois pas que ce soit vrai historiquement, je veux dire par là, et c'est précisément pour moi l'une des vertus du dialogue judéo-chrétien, d'affirmer au fond que nos deux identités religieuses, juives et chrétiennes, ont besoin l'une de l'autre pour se comprendre. C'est pour moi l'une des découvertes de ces 10 dernières années. Et pourquoi ? Bien sûr que le judaïsme peut se comprendre, totalement indépendant du christianisme. Il peut, oui. Mais je ne crois pas que ce soit historiquement correct. Si j'en crois beaucoup de personnes que j'ai entendues, en particulier des érudits juifs aussi éminents que Alan Siegel, dans son livre sur Paul, ou bien Daniel Boyarin, eux-mêmes disent... Si nous voulons comprendre le judaïsme pharisien au 1er siècle, les sources les plus fiables sont les évangiles. Compte tenu, bien entendu, des effets de relecture, de contextualisation et d'anachronisme, bien sûr. Mais je veux dire qu'au fond, les évangiles apparaissent à ces érudits juifs éminents comme la source la plus fiable de connaissance de la famille juive, des familles du judaïsme au 1er siècle. Je rappelle simplement le fait que Flavius Joseph, dont on redécouvre aujourd'hui l'énorme valeur pour la relecture qu'il opère de l'histoire juive, Flavius Joseph a été transmis par des copistes chrétiens. Je dis cela absolument pas dans la perspective d'une apologétique chrétienne, comprenez-moi bien. Je me prononce en tant qu'historien. Et je crois qu'il est important, au fond, que nous mesurions précisément l'utilité et la fécondité, au fond, du dialogue avec l'autre pour se découvrir soi-même. Cela dit, et posé au préalable, mon entrée dans le thème, à la demande de Dan Jaffé, est donc tout à fait spécifique, à savoir qu'il m'a été demandé de vous présenter les résultats de la quête du Jésus de l'histoire. Alors, selon l'excellente devise rappelée par mon prédécesseur, préciser les mots, ce qu'on appelle le Jésus de l'histoire, c'est donc la vie de Jésus de Nazareth, telle qu'elle peut être reconstituée, sur la base de données historiques, scientifiquement neutre. Alors ce terme scientifiquement neutre est bien entendu sujet à caution. Pour faire court, je dirais que la neutralité ici s'oppose à l'intervention de la foi qui pourrait transformer des données de l'histoire, par exemple par l'embellissement légendaire, ou bien elle s'oppose, la neutralité ici, au méfait du temps qui altère la mémoire des témoins. Donc, la quête du Jésus de l'histoire remonte en deçà du texte des évangiles, qui sont un miroir des témoignages croyants, remonte donc en deçà du texte des évangiles pour reconstruire avec une objectivité souhaitée maximale les faits et gestes de Jésus de Nazareth. Voilà quelle est la visée de cette quête. Une quête qui n'est pas nouvelle, qui a débuté à la fin du XVIIIe siècle et qui a connu des phases successives. Là encore, pour faire court, les historiens de la recherche situent une première phase de la quête du Jésus de l'histoire au XIXe siècle. L'un des représentants, je dirais, français les plus brillants, assurément les plus brillants, est Ernest Renan, 1863, dont il faut relire le livre ne serait-ce que pour en déguster la langue. Donc, 19e siècle, première phase du Jésus de l'histoire, où l'on est essentiellement occupé à reconstruire cette grande figure de la spiritualité humaine que l'on voit en Jésus de Nazareth. Une seconde phase, qu'on appelait la seconde quête du Jésus de l'histoire, grosso modo de 1900 à 1980, où là, mais l'histoire peut le comprendre, cette histoire qui se déroule aussi politiquement et culturellement, et notamment en Allemagne en 1900 et 1980, Jésus est plutôt mis à distance du judaïsme, Et une troisième quête, ou une troisième phase, si vous préférez, dès 1980, et c'est là-dessus que je vais focaliser mon propos. En rappelant beaucoup trop brièvement l'existence de ces trois quêtes, je veux simplement dire que la recherche progresse. Nous n'en sommes plus à discuter le fait même de l'existence de Jésus, car l'existence de Jésus et sa mort sont parmi les faits les mieux documentés de l'Antiquité. Nous n'en sommes plus à nous demander, par exemple, si Jésus a réellement exercé une activité thérapeutique. L'activité guérissante de Jésus est la mieux attestée de la tradition de Jésus. Un point sur lequel la recherche, dès 1980, a fait basculer les convictions antérieures, c'est la question de la judaïcité de Jésus. C'est-à-dire de son immersion dans la culture juive palestinienne des années 30. Et c'est cette redécouverte de la judaïcité de Jésus dont j'aimerais dans un premier temps dire les résultats des chercheurs et dans un second temps me présenter, me prononcer de manière plus personnelle et critique. Ce qu'on appelle la troisième quête du Jésus de l'histoire, c'est une nébuleuse de chercheurs qui aux États-Unis ont pour nom Ed Sanders ou John Dominic Crossan, Richard Horsley, James Dunn, en Allemagne, Gerd Thyssen et Wolfgang Stegemann. Le point commun de ces chercheurs est d'avoir fait voler en éclats le consensus. Le consensus qui jusque-là, à savoir essentiellement dans la deuxième quête, 1900 à 1980, donc faire voler en éclats ce consensus qui jusque-là distinguait Jésus du judaïsme de son temps, pour ne pas dire opposait Jésus au judaïsme de son temps. Car la deuxième quête dont j'ai parlé posait Jésus, je dirais, en héros libre d'une religion du cœur, et opposait cette image de Jésus à un judaïsme dépeint comme légaliste, rigoriste, étriqué et tatillon. La deuxième quête voyait Jésus substitué à l'argutie juridique des pharisiens, c'est ainsi qu'elle le voyait, une morale de l'intention et une religion de l'intériorité. Cette image a volé en éclats. Elle a volé en éclats, d'une part, parce que revisiter le judaïsme avant 70 nous a montré à quel point il était historiquement inexact de taxer le judaïsme d'avant 70 de système légaliste. Et cette image a également volé en éclats parce que l'on s'est rendu compte que le débat de Jésus sur la Torah, sa discussion interprétative sur la Torah, ne singularisait pas Jésus au sein du judaïsme, mais au contraire, attestait que Jésus évolue au sein d'un débat interprétatif ouvert dans le judaïsme. Dit autrement, ce dont on s'est rendu compte, c'est que les positions critiques de Jésus sur la question de la Torah n'étaient pas l'attestation d'un écart de Jésus face à la tradition interprétative, mais au contraire, attestaient le fait qu'il prenait part à ce débat interprétatif. Non pas qu'il quittait le concert interprétatif, mais qu'il y jouait sa partition. Je donne deux exemples. de ce qu'il faut bien appeler, j'ai parlé tout à l'heure de consensus volé en éclats, on peut dire aussi qu'il s'agit d'un retournement, d'un renversement de paradigme sur la manière de considérer le rapport entre Jésus et le judaïsme de son temps. Et je vais en donner deux exemples. Le premier, c'est la position critique de Jésus sur l'impératif sabbatique. Son affirmation que l'évangéliste Marc, Marc 2, 27, résume en un slogan, le sabbat n'a pas été fait pour l'homme, pardon, le sabbat a été fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat. Et l'on a, il est vrai, au cours de l'histoire de l'interprétation de cet énoncé, considéré que, en affirmant que le sabbat n'a pas été fait pour, que le sabbat a été fait pour l'homme et non pas l'inverse, l'homme pour le sabbat, on a longtemps, au fond, pensé que Jésus ici annonçait une rupture principielle, un refus axiomatique du repos sabbatique. Dit en d'autres termes, on a lu au fond une sorte de congédiement du repos sabbatique dans cette affirmation. Or, la suspension du chômage sabbatique, puisque c'est de cela qu'il s'agit en l'occurrence, notamment dans les guérisons que Jésus, à dessein et à titre provocateur, accomplit le jour du sabbat. Il ne faut pas se faire d'illusions là-dessus. Les guérisons de Jésus le jour du sabbat ne sont pas des événements fortuits, ce sont des événements construits comme une provocation visant à poser la question de la légitimité du repos sabbatique. Mais la suspension du chômage sabbatique n'est pas du tout un souci propre à Jésus. C'est une question largement débattue, notamment au premier siècle. Et pourquoi est-elle largement débattue? C'est que lors des guerres maccabéennes du deuxième siècle avant Jésus-Christ, vous le savez vraisemblablement, lors de ces guerres maccabéennes, 1000 juifs se sont laissés décimer lors d'une attaque perpétrée un jour de sabbat. Et c'est une tragédie que nous rapporte le premier livre des Maccabées au chapitre 2. Et sous le coup de cette tragédie, l'avis a prévalu que même si c'était sabbat, il était licite de se défendre, voire même de tuer. Le débat a, depuis longtemps, depuis le deuxième siècle, quitté le terrain spécifique de la pratique militaire pour se prononcer sur la vie de tous les jours, et donc pour légiférer sur les clauses de suspension du chômage sabbatique. Par exemple, sur la question de savoir si le jour du approuvait le sauvetage de l'animal. Donc, lorsque Jésus, lui, dit, parce que sa guérison le jour du sabbat, c'était la guérison d'un homme à la main sèche, Marc 3, 1 à 6. Lorsque Jésus est pris à partie et observé parce qu'il va guérir un jour du sabbat, Jésus pose la question, Marc 3, 4, ce qui est permis le jour du sabbat, est-ce de faire le bien ou de faire le mal? Nous pouvons parfaitement le comprendre, je dirais, sur l'arrière-fond de ce débat. Oui, s'il s'agit de faire le bien, alors la levée du repos sabbatique est légitime. Donc, premier exemple, les positions critiques de Jésus sur l'impératif sabbatique se comprennent dans un débat largement ouvert et où l'on remarque que Jésus de Nazareth adopte une position qui pouvait être approuvée par les uns, en l'occurrence les pharisiens, récusés par les autres, en l'occurrence les esséniens. Deuxième exemple, déjà plus complexe, la position de Jésus sur les lois de pureté. Les évangélistes, et Marc le premier, a Marc le premier a rassemblé un certain nombre de prescriptions de Jésus et une réflexion fondamentale de Jésus sur l'application des règles de pureté dans le chapitre 7 de son évangile, avec notamment cette formule, 7.15, « Il n'y a rien d'extérieur à l'homme qui puisse le rendre impur en pénétrant en lui, mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. » Donc non pas ce qui entre en lui, mais ce qui sort de lui. Ce qui du coup, effectivement, pose la question de la légitimité de la cacheroute. On peut constater ici que si effectivement Jésus dévalorise l'importance donnée à la pureté alimentaire, il n'en réclame pas pour autant la radiation. Ce qui est affirmé, c'est que aucun aliment en soi, je dis bien en soi, n'est pur ou impur. Et à ce sujet, on rapporte ce propos du rabbi Yohanan ben Zakkai, mort vers 80. C'est une sentence qui nous est transmise par la Pesikta de Rav Kahana. Yohanan ben Zakkai, il est rapporté de lui ceci: « Dans votre vie, ce n'est pas le cadavre qui rend impur et l'eau qui purifie, mais c'est une ordonnance du Saint béni soit-il. » Le saint béni soit-il a dit, j'ai établi une prescription, j'ai fixé une ordonnance, et il ne t'est pas permis de transgresser mon ordonnance. Donc on retrouve chez Rabbi Yohanan cette même intuition que défend Jésus, que ça n'est pas l'aliment comme tel qui rend impur. Alors, est-ce que Jésus était d'avis que la halakha de pureté, c'est-à-dire le rituel de pureté, n'était revêtu d'aucune légitimité, mais qu'il devait néanmoins être observé, nous l'ignorons. Il se pourrait que ce soit ainsi, à savoir que Jésus n'abroge pas le rituel de pureté, mais en proclame la dévalorisation par rapport à la loi morale. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Le résultat de cette réévaluation de la position de Jésus par rapport à la Torah peut être formulé ainsi: non seulement Jésus ne s'écarte pas du débat pharisien sur la Torah, mais il respecte les règles de la halakha en avançant sa propre interprétation et en la légitimant. Ce qui a conduit du coup un certain nombre d'exégètes appartenant à cette troisième quête, comme Ed Sanders ou James Dunn, à aligner complètement Jésus, je dirais, sur la figure du rabbi pharisien. En le faisant d'ailleurs, Sanders et Dunn rejoignaient la position de David Flusser, qui dans son beau livre sur Jésus aligne tout à fait Jésus sur la figure du pharisien, ou bien l'admirable ouvrage de Joseph Klausner, qu'il faut avoir lu à mon avis, même s'il est traduit, donc il a été traduit en 1933 de l'hébreu en français, Joseph Klausner, Jésus de Nazareth, qui est à mon avis, à mon sens, une des plus belles lectures juives de la figure de Jésus dont nous disposions en français. Le fait que Jésus ne se prononce pas principiellement sur l'autorité de la Torah, Jésus, effectivement, n'a aucune déclaration par laquelle il légitimerait ou délégitimerait la Torah, est dès lors, du coup, ressenti et reconnu comme la reconnaissance implicite de son autorité. L'inscription de Jésus dans la sphère de souveraineté de la Torah. Donc, je termine ici, au fond, la première partie de mon exposé. J'estime qu'il nous faut considérer comme acquis ce renversement de paradigme de la troisième quête, qui valorise la judaïcité de Jésus de Nazareth, qui considère Jésus de Nazareth comme un juif à 100%, marginal peut-être, et c'est le titre anglais de cet ouvrage qui pour l'instant comporte trois tomes, traduit en français, de John P. Meyer, Jesus a Marginal Jew, qui a été mal traduit en français, pas le livre, mais le titre, par un certain Jésus, Mais je pense que le titre Un juif marginal est beaucoup plus fidèle, en tout cas, à ce que entend John P. Meyer. Marginal peut-être, mais juif. Alors, on peut le rapprocher de la figure du rabbi, parce que comme les rabbis, Jésus de Nazareth rassemble des disciples, enseigne la Torah, guérit, comme beaucoup de rabbis guérisseurs. On peut rapprocher Jésus plutôt de la figure des prophètes charismatiques, comme l'a fait Géza Fermès. On peut rapprocher Jésus plutôt des prédicateurs eschatologiques de conversion, comme l'ont fait Gerd Tyson ou Richard Horsley. Le changement de paradigme valorisant la judaïcité de Jésus, à mon avis, doit être retenu et considéré comme acquis. Deuxième point, a-t-on tout dit en disant cela ? À mon avis, pas, et j'aimerais poursuivre. J'aimerais poursuivre en risquant une thèse sur laquelle j'aurais intérêt à recevoir votre réaction. Non, mais je veux pas être méchant, attendez. Non, mais ma réflexion, c'est la suivante. En disant ça, et donc je répète bien que pour moi, c'est un changement de paradigme qui doit être acquis, et je ne retire rien là-dessus. Hein, c'est pas un oui, mais. Hein, bon. Ce qui me frappe tout de même, c'est que ce nouveau paradigme a le même défaut que le paradigme ancien. J'entends par là qu'il pose une antithèse entre la judaïcité de Jésus et sa singularité. Moi, c'est ça qui me frappe. Je veux dire, la deuxième quête du Jésus de l'histoire, appuyait à ce point la singularité de Jésus, qu'à la limite, il le retirait à son peuple. Jésus n'était plus juif, parce qu'il était singulier. Et pour affirmer que Jésus était le Seigneur de l'Église, on le déjudaïsait. Et c'est faux, historiquement et théologiquement. Mais ce qui me frappe, c'est que le nouveau paradigme fait la même chose, mais simplement symétriquement. Je veux dire par là qu'à lire un certain nombre d'ouvrages de cette troisième quête, on se dit, mais qu'effectivement, et c'est là qu'effectivement je me démarquerai un peu de mon prédécesseur, M. Blanchetière, au fond qu'il n'y a rien de nouveau. Et que Jésus n'a rien proposé de nouveau. Pourquoi pas? C'est une thèse historique défendable. Si je ne m'arrête pas à cette thèse-là, c'est pour la raison suivante. Là encore, absolument pas par perspective apologétique chrétienne. Mais que si l'on veut rendre compte de la totalité de la destinée de Jésus, il faut tout de même intégrer un point, c'est la raison pour laquelle Jésus a été rejeté par les autorités religieuses de son temps. Et il faut rendre compte de la question suivante, pourquoi fut-il rejeté comme un risque mortel? Joseph Klausner, dans une superbe expression, disait « Jésus devait être rejeté par le judaïsme de son temps, car il allait donner le baiser de la mort au judaïsme. » Je reviendrai là-dessus. C'est extra... J'attends. Bien, mais je veux dire, c'est une très très forte expression, mais j'entends par là, toute lecture de la destinée de Jésus de Nazareth, et surtout celle qui met en avant avec raison sa judaïcité, ne peut faire l'impasse de ce point qui marque une rupture entre ce que Jésus met en avant et la manière dont les autorités religieuses de Jérusalem l'ont jugé comme un danger à éliminer. Alors, pour Sanders, effectivement, Ed Sanders, Jesus and Judaism, 1971, ce qu'a au fond fait et dit Jésus ne diffère en rien de ce qu'a fait n'importe quel ou dit n'importe quel rabbi. La seule différence que concède N. Sanders, c'est que Jésus accordait le pardon aux pécheurs sans exiger préalablement une conversion. À ce détail près, Jésus est conforme à tous les rabbis. La question, c'est tout de même de savoir, pourquoi alors celui-ci a-t-il été rejeté par les autorités religieuses de son temps? Et deuxièmement, la séparation qui fut lente, longue, progressive, inégale selon les lieux. Mais la séparation entre judaïsme et christianisme est-elle le fait alors des malheureux aléas de l'histoire? Ou bien y avait-il dans la pratique et dans la prédication de Jésus de Nazareth quelque chose qui annonce le déchirement qui va se produire bien plus tard? Ma thèse, c'est qu'il y avait quelque chose qui annonce ce déchirement. Dit autrement, que l'étrangeté, que l'altérité, se trouvait déjà dans la pratique et dans le message de Jésus de Nazareth. Non pas que Jésus de Nazareth ait imaginé l'Église, non pas que Jésus de Nazareth ait pratiqué la mission païenne, absolument pas, je rejoins mon prédécesseur. Jésus est intervenu en tant que réformateur du judaïsme et il a échoué dans son projet. Mais, je pense, et j'aimerais vous le montrer sur trois points, je pense qu'il y avait, dans la pratique et la prédication du Nazaréen, des points qui expliquent le déchirement qui va se produire. Ces marques de singularité, la première, le fait que nous ayons été conduits, surtout dès 1980, à réinterroger positivement les liens entre le Nazaréen et sa culture, a conduit à un usage très fréquent de la comparaison. On compare de manière forte maintenant, sinon même immodérée, les paroles de Jésus, notamment celles du serment sur la montagne, et les paroles des rabbins préservées dans la Mishnah ou plus largement dans le Talmud. Il est vrai que cet exercice de littérature comparée a magnifiquement éclairé les paroles de Jésus dans le serment sur la montagne. La question, c'est de savoir si la comparaison se pratique d'une manière qui est méthodologiquement recommandable. Un exemple, le plus fameux de tous, par exemple, Lévitique 19-18, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Lévitique 19-18 était déjà considéré dans le mouvement de Hillel comme la concrétion de l'exigence morale de la Torah. Et mettre en évidence cette synthèse de la Torah dans le commandement de l'amour du prochain s'inscrit dans la prééminence de la loi morale sur la loi rituelle qui est la caractéristique du judaïsme de la diaspora. Mais dire cela suffit-il pour conclure au fond que Jésus ne fait que répéter ce qui s'est toujours dit avant lui ? Je répète que ma question n'est pas apologétique, mais qu'elle est littéraire et historique. Et je réponds non. Je réponds non, pourquoi ? Parce que Jésus donne à l'exigence de l'amour du prochain une fonction argumentative. Une fonction argumentative que nul autre n'a donnée avant lui. À savoir que pointer sur l'amour d'autrui va conduire Jésus à détruire toute limite apportée à l'amour du prochain. L'amour du prochain pour Jésus existe s'il est inconditionnel ou n'existe pas. Matthieu 5, 43-48. Tu aimeras ton ennemi et tu pries, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Pour Jésus, l'amour d'autrui trouve sa pierre de touche dans l'amour du non-aimable. Mais à tel point que cette relecture radicale définit l'amour comme l'amour des limites. L'amour est amour du non-aimable, de l'ennemi et du persécuteur, ou il n'est pas. Et Jésus va dès lors donner une extension illimitée à la miséricorde, à l'image du Dieu qui fait pleuvoir sur les bons et les méchants. Dès lors, il est juste de dire, lorsque Jésus reprend la formulation « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », il ne fait rien d'autre que de reprendre Lévitique 19-18 comme d'autres l'ont fait. Mais il ne le fait pas à l'instar d'autres. J'entends par là, il donne une force argumentative d'une radicalité qui, elle, ne fut pas entendue auparavant. Puisqu'elle va permettre notamment d'invalider toute autre prescription de la Torah. Et cela, même le grand Hillel n'était pas allé jusque-là. Deuxième point, la position de Jésus face à la régulation de pureté, dont j'ai parlé tout à l'heure à propos de Marc 7,15, et en montrant à quel point Jésus ici prend place dans un débat ouvert sur la pondération entre la loi rituelle et la loi morale. Effectivement, la loi de pureté, la législation de pureté n'est pas récusée comme telle, même si elle est totalement subordonnée à la loi morale. Mais il faut reconnaître que cette disqualification de la loi pureté par rapport à la loi morale a conduit Jésus à des fréquentations jugées absolument choquantes de son temps, fréquentation des malades, notamment des lépreux, des femmes, des personnes exerçant un métier impur, et Dieu sait si elles étaient nombreuses, des prostituées, des collaborateurs romains, etc. Ces fréquentations moralement non recommandables attestent au fond du fait que Jésus accordait une priorité absolue à la loi morale. Ça n'était pas... Cette priorité à la loi morale n'est pas la particularité de Jésus, ça n'est pas inouï en son temps, sauf chez les pharisiens qui étaient très très minutieux du point de vue de la ritualité. Mais ce qui me frappe, c'est qu'au fond, Jésus, lui, va inverser la fonction de la pureté, à savoir que pour Jésus, la pureté n'est plus comprise de manière défensive, mais de manière offensive. Et ça, c'est un retournement qui, à mon avis, ne s'est pas produit avant lui. Jésus, donc, va penser la pureté d'une manière offensive et non plus défensive. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que Jésus, effectivement, enregistre le rituel de pureté pour ce qu'il est sociologiquement prévu, à savoir défendre la pureté des uns contre l'impureté des autres. Et Jésus met le doigt sur le fait que cette défense de la pureté, si elle est comme telle non critiquable, aboutit de fait à un oubli ou une mise à distance de Lévitique 19-18 et de l'amour d'autrui. Et Jésus, du coup, va inverser en disant « La pureté, qu'est-ce que c'est ?» La pureté se construit par l'accueil que j'offre à l'autre. La pureté se construit par l'amour que j'offre à l'autre ou par la compassion active que j'exerce face à l'autre. Et c'est ainsi que Jésus va effectivement mettre en œuvre un concept de pureté qui va dire « Ce qui est pur, c'est ce qui sort de l'homme. » Oui. C'est cet abord pragmatique constructif d'une pureté par lequel, au fond, l'individu, homme ou femme, va lui décider s'il est pur ou impur par la manière dont il construit ses relations à l'autre. Et non pas par la façon dont il devra non seulement se protéger de l'impureté des autres, mais se protéger des autres à cause de leur impureté. Et sur ce point-là, me semble-t-il, cette inversion du rituel de pureté, je dis bien, qui est complètement compréhensible dans les catégories du débat herméneutique sur la pureté dans le judaïsme des années 30. Mais où Jésus, où reconnaître cette extrême judaïcité de Jésus ne doit pas conduire, à mon sens, à occulter l'originalité d'une proposition qu'il opère ici. Et puis le dernier point, je terminerai par là, c'est ce que j'ai appelé dans quelques publications sur Jésus de Nazareth l'état d'urgence que ressent Jésus et qui surplombe son éthique. Et je vais revenir au grand Klausner. Parce que le noyau de la prédication de Jésus, c'est donc l'affirmation de la proximité du règne de Dieu. En cela, Jésus rejoint les apocalypticiens. En plaçant au centre de sa prédication l'annonce du règne, du Malkout HaShamayim, Jésus rejoint non pas les rabbis, mais les apocalypticiens. Et cette proximité du règne va exercer une pression sur le présent, à tel point que pour Jésus, il est nécessaire d'agir vite, et d'agir avec un impératif radical. Matthieu 5, 23-24, « Si tu vas offrir ton offrande au temple, et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, et ensuite reviens accomplir ton offrande. » Il y a là une urgence qui va se retrouver également dans le fait que la loi du talion, Matthieu 5, 38-42, la loi du talion qui pourtant régule l'exercice de la revanche, c'est œil pour œil et pas plus d'un œil, dent pour dent. Cette régulation de la violence, qui a fonctionné sociologiquement d'une manière admirable, Jésus la récuse en disant « si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre joue. » Et non pas « gifle-le sur une seule joue. » On a là effectivement une urgence de l'attitude à avoir, une radicalité de la demande. Et de même encore, quand Jésus envoie ses disciples en mission, Luc 10, il leur dit « ne prenez ni bourse, ni sac, ni sandales ». C'est donc au fond une situation d'extrême fragilité, et il ajoute, ce qui contredit tous les usages de civilité, « ne saluez personne en chemin ». Ne perdez pas de temps à cela. La pression du temps est trop forte. Ce sentiment d'urgence, cet état d'urgence dans lequel vit Jésus, traduit le fait qu'à la différence celui que je crois être son maître en spiritualité, Jean le Baptiseur, Jésus de Nazareth ne se comprend pas comme le héros du règne qui va venir, il se comprend comme celui qui inaugure un temps qualitativement différent, un temps tout entier surplombé par le règne. Car l'expérience que Jésus a faite du Dieu d'Israël est une expérience singulière qui explique cet état d'urgence. Mais cet état d'urgence, et c'est là que je vais en venir, quitte le terrain du raisonnable. Elle engendre une morale de l'excès. Lisez le serment sur la montagne, c'est une morale de l'excès, n'est-ce pas? Se défaire de tout pour celui qui réclame. Dire qu'aimer, c'est aimer l'ennemi ou qu'il n'y a pas d'amour. C'est une morale de l'excès, qui rompt avec la morale raisonnable des sages, parce qu'elle ne se plie pas à la mesure de l'humain. Et cela, c'est le grand regret de Joseph Klausner. Pour lui, cette morale de l'excès, cet état d'urgence, manifeste la dérive de Jésus. La dérive de Jésus, dit Klausner, séduit par les chimères apocalypticiennes, et chimères apocalypticiennes qui l'ont fait quitter la voie des sages, qui est la mesure du raisonnable, qui est la mesure de l'humain dans l'éthique. Et Klausner place comme modèle le grand Hillel, qui, lui, ne s'est pas laissé séduire par ces fictions apocalyptiques, dit-il. Déviance ou génie propre. En tout cas, Klausner, lui, avait perçu cette irréductibilité de Jésus dans le judaïsme ancien. Et une irréductibilité qui se manifeste, à mon sens, dans le fameux « mais moi je vous dis » des antithèses, par quoi Jésus avance sa lecture de la Torah au moyen d'un « je » qui fait fi de la chaîne traditionnelle des interprètes de la Torah. Un « je » impertinent et autoritaire, inouï dans la tradition rabbinique. Jamais Rabbi n'avait osé se placer à la hauteur de Moïse pour restaurer dans sa radicalité le droit de Dieu. Je termine par là pour dire au fond que, me semble-t-il, dans les débats qui sont les nôtres, il nous faudrait à la fois enregistrer et valider cette heureuse, bienvenue et juste valorisation de la judaïcité de Jésus, et en même temps avoir, dans la lecture du Nouveau Testament, un regard suffisamment acéré pour montrer qu'effectivement ce Jésus-là, si juif, est en même temps un Jésus qui, dans sa pratique et dans son discours, annonçait ce qui va être développé, parfois surdéveloppé plus tard, et marque effectivement une différence importante de Jésus dans son expérience spécifique de Dieu. Merci.
Pour moi, apparaît la question de la générosité. Est-ce que la générosité existait avant les Juifs, avant Jésus ou non? Et je suis particulièrement attachée à cette question parce que dans la littérature française, par exemple, par la suite, on fait la question de la générosité, de la magnanimitas ou de la magnitudo animi comme étant extrêmement importante. Et vous avez par exemple une pièce comme Cinna qui montre la grandeur d'Auguste d'accorder la clémence. Et Paul Bénichoux contredit un petit peu cette idée en disant qu'il ne faut pas transformer de l'orgueil en vertu héroïque. Et je ressens beaucoup cela personnellement en littérature française, finalement, depuis Jésus.
Quelle est la question? Je ne comprends pas très bien.
Je voudrais que monsieur me contredise ou...
Oui, mais c'est un tout notre sujet.
Ou m'explique si la générosité existait avant
Merci.
Jésus.
Merci. Alors, avant de donner la parole aux intervenants, je vous rappelle qu'ils n'interviennent pas à titre de théologien. Parce que les questions sont allées dans ce sens-là, ce qui est normal, en fait, puisque ça charrie toutes sortes de croyances, d'idées, etc., mais qu'ils élaboraient des théories explicatives. Et donc, c'est à ce titre-là, je pense, qu'ils doivent être interrogés. Bon, alors, monsieur Marguerat, s'il vous plaît.
Je vous remercie beaucoup de vos interventions. C'est vrai que, vous savez, en trois quarts d'heure, tenter au fond de dire quelque chose sans trop simplifier, parce que si on fait apparaître les choses comme simplistes, on trahit ce que l'on veut présenter. Donc, sans trop simplifier, présenter des choses, mais il est vrai que j'ai défendu dans des ouvrages nettement plus épais et auxquels je renvoie. L'un, c'est Jésus de Nazareth, nouvelles approches d'une énigme. L'autre, c'est un petit livre plus mince qui s'intitule L'homme qui venait de Nazareth. Mais si vous voulez en savoir plus, si j'ose le dire, excusez-moi, mais je le dis très rapidement, vous pouvez très bien sur Google taper Daniel Marguerat, puis vous tomber sur mon site internet, et je dis bien tomber, et là du coup vous avez un certain nombre de publications qui sont consacrées précisément à la question complexe de la reconstruction du Jésus de l'histoire. Alors j'ai été vraiment très intéressé, j'ai pris note de vos interventions, je vais me permettre peut-être, le temps passant, de brièvement, mais excusez cette brièveté vraiment, de revenir sur trois points. Le premier point, si je n'ai pas parlé de Claude Trémontant, c'est que dans la typologie de la recherche, il n'est pas affilié à ce qu'on appelle la troisième quête, dont j'ai dit juste c'était une nébuleuse de chercheurs. Ce que je devrais développer beaucoup plus longuement, mais ce serait vraiment une autre conférence, c'est que cette troisième quête obéit à un paradigme de recherche dont la valorisation, revalorisation de la judaïcité de Jésus n'est qu'un point. Il y en a bien d'autres. Sur ce point-là, Claude Trémontant effectivement relève de sa troisième quête, mais pas sur tous les autres, c'est la raison pour laquelle on ne peut pas l'affilier. Et effectivement, si je n'ai pas cité de chercheurs français ni francophones, qu'ils soient belges, suisses ou français, c'est qu'il n'y a pas d'initiateur de cette troisième quête actuellement. Il y a des gens qui, comme moi, y participent de manière intéressée et critique, mais sans avoir été un initiateur. La loi rituelle et la loi morale, je n'ai pas dit, parce que ce serait été une monstruosité, que Jésus néglige ou méprise le rituel. Alors attention, je rappelle ce que j'ai dit. Dans, au fond, la pondération entre loi rituelle et loi morale, la loi rituelle est ce qui protège la pureté de l'individu face à d'autres, la loi morale étant ce qui ordonne le rapport de l'autre à autrui. Et quand j'ai dit, au fond, quand j'ai parlé de cette recomposition, de ce renversement de la notion de pureté qui devient offensive et non pas défensive, c'est que Jésus, effectivement, va accorder la priorité à cette avancée de l'individu vers l'autre plutôt que cette défense que l'individu avance face à l'autre pour protéger sa pureté. Maintenant, une question qui me paraît tout à fait vraiment importante était celle, l'une des questions posées en premier, et celle qui parlait notamment des Lubavitch, est-ce qu'il y a différence entre Jésus et le judaïsme de son temps, je le dis pour faire court, ou bien changement de paradigme? Et la personne qui intervenait... pense certainement qu'il y a différence, mais pas changement de paradigme, et je vous rejoins entièrement, mais bien sûr. Je veux dire que Jésus de Nazareth, je l'ai dit, en passant, se voulait réformateur de la foi d'Israël et n'a pas été reçu comme tel, mais à l'intérieur du paradigme qui est entièrement le paradigme du pensée de la judaïté sur elle-même dans les années 30. Entièrement. Et on peut rendre compte entièrement de la position de Jésus à l'intérieur de cela. Ce que je voulais dire, le changement de paradigme interviendra plus tard, lorsque, avec l'apôtre Paul, on va parler de christianisme. Mais le christianisme, comme vous le savez, naît au confluent de la tradition juive et du monde religieux gréco-romain. C'est à ce confluent-là qu'il naît, le christianisme, n'est-ce pas? Pas avant. Donc, Jésus est à l'intérieur du paradigme du judaïsme palestinien du premier siècle, absolument. Ce que j'ai essayé de dire, c'est que, au fond, de réagir à ce mouvement dont je participe, auquel je participe fondamentalement de remise en valeur de la judaïcité de Jésus, mais qui me paraît tout d'un coup banaliser le personnage d'une façon qui me paraît tout simplement historiquement inadéquate. Alors dire différence ne veut pas dire extériorité. Voilà. Mais dire intériorité ne veut pas dire comme tous les autres, pour rassembler de manière très... Voilà.